Il reste des domaines où il y a des progrès à faire, mais sur l'essentiel de la foi, il y a un accord fondamental. Que ce soit la référence à l'Écriture, la compréhension du salut, que ce soit même des thèmes qui semblent difficiles comme l'Eucharistie, le baptême, etc., il y a là de très larges convergences, des convergences dont les divers représentants des églises, pas ceux qui sont présents ici parce qu'ils sont au courant de la chose, mais seraient ou sont en fait surpris. Donc, il nous demande, et c'est ça sa grandeur aussi, il nous demande de lui dire maintenant comment est-ce qu'on va continuer. Et je crois que c'est ce à quoi nous travaillons, et ce n'est pas facile.
Alors, il y a 10 ans, en 2000, la publication de Dominus Iesus avait provoqué de très vives controverses. Le cardinal Casper a évoqué, en ouverture de ce symposium, les erreurs qui avaient été faites du côté de l'Église catholique. Du côté protestant, est-ce que la blessure est toujours ouverte, selon vous ?
Mais il est évident que la blessure est ouverte, bien que, mais ce sont là un peu des finesses de théologiens, c'est surtout au niveau de la perception, au niveau local de ce document, qu'on avait l'impression que l'Église catholique dit de manière définitive « personne d'autre n'est Église excepté nous ». Si vous y regardez de près, le document ne dit pas tout à fait ça. Le document dit « ils ne sont pas Église au même sens que nous parce qu'ils ont une autre conception de l'Église, ce qui n'est pas faux ». Mais la question est quand même posée. Quelle est la qualité de ces communautés qui ne sont pas et qui n'ont pas du tout l'intention d'entrer en communion avec, par exemple, l'acceptation de l'évêque de Rome comme primat de l'Église universelle? Et ce n'est pas 0 ou 100%. Il y a quelque part une position intermédiaire qu'on essaye de trouver. Et je tiens quand même à redire que l'Église catholique insiste sur le fait qu'il y a dans toutes ces communautés des signes évidents de l'œuvre de l'Esprit-Saint, que dans ces communautés, il y a la réalité du salut en Christ qui est célébrée. Même au niveau Eucharistie, il n'est jamais dit qu'il n'y a pas d'Eucharistie du tout. Alors, on aimerait bien en savoir davantage. Vous voyez, entre luthérien, réformé, anglican, méthodiste, il a été possible de nous dire mutuellement, nous ne sommes pas identiques et uniformes, nous n'avons aucune envie de l'être, mais nous pouvons voir dans l'autre une expression légitime de l'Église du Christ. Et cette affirmation n'est pour le moment pas possible pour les responsables catholiques, mais je continue à croire que c'est qu'il y a là une des ouvertures et qu'on peut arriver plus loin que ce que nous avons en ce moment.
Le cardinal Casper a émis certaines craintes, dont celle que le dialogue œcuménique ne devienne une matière pour les seuls spécialistes, pour les théologiens, et par contre que ce discours, que ce dialogue œcuménique reste inaccessible au grand public. Est-ce que c'est là un des défis du dialogue œcuménique pour les années à venir ?
Mais évidemment. Vous voyez, au début du mouvement œcuménique, on découvrait avec surprise que les uns et les autres avaient le même baptême, qu'ils avaient la même compréhension du salut, et tout ça, c'était la fin des années 60, les années 70, c'était les grandes nouvelles. Dans ce genre de travail, il fallait que par la suite, on entre davantage dans les détails, et ces détails ne doivent pas nécessairement préoccuper tout paroissien de base. Ce qu'il s'agit de pouvoir faire, c'est de pouvoir dire que l'autre, dans son altérité, ne dit rien qui soit contraire à l'affirmation de mon Église. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le salut, la déclaration du salut que je mentionnais il y a 10 ans. Ben, il nous aura fallu 40 ans pour y arriver. Les premiers accords datent des années 60 et c'est en 99 qu'on a signé l'accord. Et là, il faut, je dirais qu'il y a une certaine, pas patience qui est exigée, mais il faut faire le travail de manière sérieuse si vous voulez que ce travail ait vraiment de l'avenir. Ce qui est plus important, et là, vous dépassez le contexte du simple travail théologique, c'est la volonté politique. Et il faut qu'il y ait une volonté politique des dirigeants d'Église qui demandent aux théologiens où en sommes-nous, est-ce que les accords sont suffisants et est-ce que nous pouvons faire des pas de plus. Et je crois que la grande chose pour la déclaration sur le salut a été la volonté politique du pape Jean-Paul II lui-même. Il voulait à tout prix aboutir. Et je crois que dans la situation actuelle, c'est un peu cette volonté politique qui manque, pas seulement du côté des responsables catholiques romains, mais aussi du côté des responsables de toutes les églises, étant donné que les temps ont un peu changé. Nous sommes dans une phase où crise économique, crise écologique, crise identitaire et tout cela aidant, il y a une tendance au repli sur soi. Et ça, vous l'avez partout. Alors que dans cette phase, il est difficile de dire des autres « nous vous acceptons dans votre différence », ça va malheureusement de soi, même si moi, œcuméniste, je regrette cette situation.
Justement, donc, dans ce contexte de crise sociale, économique, crise des valeurs, le président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, le cardinal Casper, recommandait aux chrétiens de s'unir pour parler d'une seule voix sur les valeurs qu'ils partagent. Alors, est-ce que ce sera aussi ça, le dialogue œcuménique dans les années à venir?
Cela est absolument évident qu'il faut essayer de parler d'une voix. Et ce que le cardinal a aussi dit, et je crois que c'est ça ce qui est important, c'est que nous avons de nouveaux défis, surtout de type éthique, que ce soit les problèmes dont on parle à l'heure actuelle, comme l'homosexualité ou l'intervention dans le bagage génétique humain, et où alors les divisions sont transconfessionnelles. Ces questions sont débattues au sein de chaque famille. Et là, nous n'avons pour le moment pas du tout la bonne méthode pour aborder ces questions transconfessionnelles. Nous essayons évidemment de le faire, mais là, il reste énormément de choses à faire.
Et quelle pourrait être la bonne méthode selon vous?
Pour moi, la bonne méthode, ce sera toujours de pouvoir dire qu'il peut y avoir des options éthiques différentes dans les diverses familles, à condition que ceci n'interdise pas à ces diverses familles de célébrer entre elles, c'est-à-dire au sein de leur propre tradition, de célébrer ensemble la parole, les sacrements. Et ce n'est pas tout à fait évident. Et je prends l'exemple de la communion anglicane, où la problématique précisément de l'homosexualité conduit en ce moment à des divisions internes qui sont très grandes. Ce qui arrive aux anglicans peut arriver en bien d'autres lieux, à bien d'autres familles confessionnelles. Et vous savez bien que ce sont des questions qui divisent profondément nos sociétés. Et pour le moment, nous sommes dans une phase où nous nous mettons d'accord sur un certain nombre d'outils. Et l'outil majeur, c'est de dire qu'une diversité est légitime tant qu'elle ne nous interdit pas de célébrer ensemble parole et sacrement. Il faudra évidemment l'affiner, mais c'est bien à partir de là que nous pourrons faire des progrès.
Une dernière question. Vous, en tant que pasteur, en tant qu'œcuméniste, en tant que théologien protestant, qu'est-ce qui vous passionne dans ce dialogue œcuménique ?
Ce qui me passionne, moi, c'est la non-confusion entre unité et uniformité. Je pense que l'unité réside dans la capacité d'accepter la légitime différence de l'autre. Moi, je ne suis pas en train de vouloir supprimer toutes les différences. La différence, c'est la vie. Il s'agit par contre de supprimer ou de travailler les différences séparatrices, celles qui divisent, celles qui interdisent la communion, de transformer ces divisions, le caractère de cette différence, jusqu'à ce que la différence devienne une expression d'une légitime pluralité qui réjouit les uns et les autres.